Et dis Mimi, tu viens à la piscine avec moi ?
Ah non, je peux pas, j'ai agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. Lundi matin, ça recommence, le café fume, les agendas se remplissent et chacun remet le nez dans son petit monde. On essaye d'être bien réveillé, on ajuste les épaules, on se met en route. Lundi, c'est ce moment où tout peut encore basculer d'un côté ou de l'autre. On peut décider d'attaquer la semaine à fond ou bien de la prendre doucement comme on feuillette un livre qu'on n'a pas vraiment choisi mais qu'on doit lire quand même. Et puis parfois, il y a des histoires qui vous attrapent au vol, des visages qui vous arrêtent, des réalités qui vous percutent. Pas pour tirer l'alarme facile, pas pour faire trembler les violons, non, juste parce qu'elles existent. Parce qu'il y a des gens qui dorment dehors quand d'autres rentrent au chaud, des gamins qui n'ont plus vraiment d'endroit où aller, des portes qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent. Aujourd'hui, on va parler de ces portes ouvertes, justement, de celles qui ne claquent pas, de celles qui accueillent. Pas avec des grands discours, mais avec du concret, du quotidien, des gestes simples. Parce qu'une main tendue, ce n'est pas grand-chose, mais ça change tout. Isabelle Maignan, justement, de l'association Hébergeurs Solidaires, est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Bonjour Isabelle et merci d'être avec nous.
Bonjour Margot, merci de me recevoir.
Et oui, quand je dis qu'on commence la semaine, c'est que c'est pour tout le monde lundi. Le lundi, c'est le jour où on te retrouve d'ailleurs, Maxime, pour la revue de presse du Haut-en-Jour. Bonjour, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va super et toi ?
Ça va très très bien, même plutôt pas mal du tout, puisqu'aujourd'hui c'est le premier jour d'une série de 3 reportages sur la brasserie mayonnaise L'Arborescence. On a été la voir ensemble à Saint-Georges-Butte-Avant et c'est Jean-François Guillery qui retrace avec nous aujourd'hui son parcours et son ancrage dans la ferme familiale. Et alors finalement, certains pourraient considérer que le début de cette émission n'est qu'un échauffement avant le moment de retrouver Mathieu, notre chroniqueur du jour pour son journal des sports. Bonjour Mathieu, toi comment tu vas ?
Bonjour Margot, ça va et toi ?
Eh bien ça va très très bien. Et bienvenue à vous, amis auditeurs. C'est votre émission quotidienne, l'agité du local qui commence. Je suis Margot et je vous ai dit quelques mots sur notre invité du jour, mais c'est le moment maintenant de vraiment échanger avec elle puisque nous sommes avec Isabelle Maignan, bénévole au sein de l'association Hébergeurs Solidaires 53. Et je me dis, Isabelle, peut-être que pour commencer, on peut dire quelques mots sur l'association et ses missions sur le territoire.
L'association, elle est née grosso modo, hein, parce que j'étais pas là au début, je dirais vers 2018. Hein. Moi, je suis arrivée dans l'association en 2020, c'était juste avant le Covid en fait. Et elle est née d'un besoin assez urgent. Il y a des jeunes mineurs qui arrivent sur le territoire de la Mayenne, souvent des Africains, parfois des Afghans, enfin, il y a d'autres continents, et qui sont sans papier. Et ces jeunes ne sont pas toujours pris en charge. Par le département, peut-être qu'on va y revenir plus longuement. Et donc, il y a des gens qui se sont dit qu'on ne pouvait pas les laisser à la rue, hein. C'est quand même des mineurs. Vous savez que c'est une obligation régalienne, hein, de prendre en charge les mineurs isolés. Et il y a plein de mineurs qui se retrouvent malheureusement à la rue, car ça sature dans l'hébergement d'urgence, et c'est vraiment un énorme problème, surtout l'hiver. En ce moment, il fait très très froid, et c'est compliqué, quoi.
L'association Hébergeurs Solidaires, ce sont des familles d'accueil qui accueillent donc ces jeunes.
Alors oui, ce sont des familles d'accueil, mais pas seulement. Il ne faut pas trop faire peur aux Mayennais. On peut être une famille d'accueil, mais on peut aussi venir nous rejoindre à Hébergeurs Solidaires avec des bénévoles et faire plein d'autres choses. Hein. Par exemple, vous pouvez nous aider à faire les inscriptions scolaires, parce que ces jeunes, même s'ils sont sans papiers, et qui sont des ninis, ni majeurs, ni mineurs, parce qu'ils ne sont pas reconnus par l'aide sociale à l'enfance, ils sont très souvent scolarisés. Là, on peut tirer un coup de chapeau à l'éducation nationale en France, qui fait quand même son boulot. Et ils sont non seulement très souvent scolarisés, bon, ça prend un peu de temps, hein. D'abord on les évalue, il faut voir leur niveau de français, etc. Mais tout ça est fait. Donc il faut des gens pour les accompagner, pour l'évaluation, pour les inscriptions, et après leur donner aussi de quoi aller à l'internat. Hein. Il faut des draps, il faut des vêtements, enfin voilà, il faut penser à tout ça. Mais ces jeunes qui sont souvent en internat, eh ben, le week-end, ils sont relâchés dans la nature. Et puis, il y a d'autres jeunes qui ne sont pas encore scolarisés et qui traînent comme ça en ville. Voilà. En gros, c'est ça. On peut aussi tout simplement donner des vêtements ou nous apporter une aide juridique parce qu'il faut les accompagner. Parce que ces jeunes, en fait, si vous voulez, quand ils arrivent, ils sont pris en charge pendant 5 nuits. Hein, ils arrivent, ils sont paumés, ils sont à la gare, bon, ils sont pris en charge par le 115. Et pendant 5 nuits, c'est ce qu'on appelle l'évaluation, le département va les évaluer. Et soit ils sont reconnus mineurs directement, et à ce moment-là, ils sont pris en charge comme tout mineur isolé, soit ils ne sont pas pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et à ce moment-là, nous, on va entamer ce qu'on appelle un recours auprès du juge des enfants. Et c'est pendant cette période qu'ils vont être comme ça, complètement flottants, quoi, livrés à eux-mêmes. Et c'est là que nous, on intervient. Parce que vous savez, le recours, on l'adresse auprès du juge des enfants. Il n'y a pas assez de juges, ça on le sait, en Mayenne. Et les recours sont parfois très très longs. Les délais sont de plus en plus longs. Par exemple, on a des mineurs qui sont arrivés à 16 ans, 17 ans. Et en fait, le temps que le recours fonctionne, ils ont 18 ans. Et donc, ils sont plus mineurs. Vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est très compliqué. Et c'est là que nous... On aide beaucoup. Il y a aussi la santé, les accompagner à tous les rendez-vous santé. En général, ils arrivent, ils ne sont pas vaccinés, ils ont des problèmes dentaires. Parfois, ils ont des problèmes au niveau des yeux parce qu'ils ont traversé le Sahara. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses à faire qui ne sont pas forcément de l'hébergement. Cela dit, je ne vous cache pas qu'on cherche des familles d'accueil.
Les parcours de chacun de ces jeunes est singulier.
Ah ouais, c'est des parcours très douloureux en général, très très difficiles. Souvent, quand on est, c'est quelque chose qui peut faire peur aux familles aussi, parce que on sait que c'est des jeunes qui ont vécu des choses assez épouvantables. Et en fait, je pense que quand on est une famille d'accueil, au début, il faut les laisser tranquilles. Ils ne rêvent que d'une chose, c'est d'être posés dans une chambre. Ils peuvent partager une chambre aussi. Hein. Vous pouvez prendre deux jeunes. et après, souvent, ils racontent. Leur histoire, et oui, c'est des parcours, bah, vous en avez entendu parler. C'est avant d'arriver et de traverser la Méditerranée, il faut passer par le Maroc ou il faut passer par la Libye. Les traversées, vous savez, se font mal. On connaît plein de jeunes qui ont vu mourir à côté d'eux, se noyer, des amis à eux. Enfin voilà, c'est des parcours, oui, très très compliqués. Et je pense que c'est horrible comme mot, intéressant, mais c'est bien de recevoir des jeunes comme ça pour se rendre compte de ce que c'est que quitter son pays, pourquoi est-ce qu'on quitte son pays, et pour se lancer dans un parcours complètement dingue, en fait, quand on réalise. Enfin, je pense qu'on devient hébergeur, moi c'est pour ça que je suis devenue, parce que je me suis dit un jour, s'il arrivait quelque chose à mes enfants et qu'ils partent à l'autre bout du monde, eh ben moi j'aimerais qu'une famille les recueille comme ça. Voilà, en fait ça peut être tout simplement ça, le raisonnement.
Est-ce qu'il y a des critères particuliers en termes d'habitation? Comment est-ce qu'on devient famille d'accueil?
Oui, non, ben non, nous, on ne fait pas passer d'examen aux familles. Bon, le critère, c'est éventuellement d'avoir une chambre disponible, voilà, d'avoir un peu de place. Souvent, c'est mon genre de profil, c'est-à-dire moi, j'ai 65 ans, ça peut être des plus jeunes, hein, mais c'est des gens, soit ils ont de la place chez eux, il leur reste une chambre, soit leurs enfants sont partis. Et donc, ils ont une maison, ils ont un appartement, voilà. Et ils peuvent recueillir des jeunes quelque temps.
Vous dites que vous recherchez donc des familles d'accueil sur le département de la Mayenne. J'imagine que Laval est particulièrement intéressant.
Bah, oui, Laval, Laval, c'est bien parce que c'est là que sont scolarisés la plupart de nos jeunes. Ils sont beaucoup à Gaston-Lénard, Réaumur, Buron. Mais il y en a qui sont scolarisés à Évron, voilà, ailleurs. Mais oui, voilà, Laval, c'est vraiment très bien parce que ça leur permet aussi de sortir un peu, de se balader. On peut leur prêter un vélo, par exemple. On leur montre la ville, de se déplacer s'ils vont suivre des cours de français. Hein, y a des bénévoles qui les aident aussi à améliorer leur français. La plupart parlent français en arrivant.
J'imagine que l'association accompagne justement tout ce processus. Une famille qui se lancerait, ben elle est... bien accompagné par l'association, guidé sur tout ce processus-là.
Et surtout, ce qu'on dit aux nouveaux hébergeurs, c'est qu'il ne faut pas trop qu'ils se mettent la pression. Il ne faut pas trop qu'ils se prennent la tête. S'ils ont envie d'héberger un jeune une nuit de temps en temps, une fois par mois, c'est déjà super. S'ils ont envie d'héberger un jeune tous les week-ends pendant un mois, c'est génial aussi. Enfin voilà, il ne faut pas se mettre la pression. On a des hébergeurs qui arrivent à héberger des gens, des jeunes tout le temps, hein, parce que ça leur plaît, etc. Mais c'est vrai que ça peut être dur aussi d'avoir tout le temps un jeune chez soi. De temps en temps, on a envie un peu de souffler, parce que c'est des ados hein, quand même. Mm-hmm. Donc il faut leur dire, va prendre ta douche, range ta chambre. et donc, il faut vraiment être très libre, quoi. Il faut pas se mettre la pression. Et c'est pour ça qu'on organise, j'en parle tout de suite, tous les mois, un apéro. Là, ça va être le jeudi 13 février à la maison de quartier des Fourches à 18h30, qui est en fait pour les hébergeurs. C'est-à-dire, nous, entre nous, on se parle. On se dit, oui, toi, ça se passe comment avec un tel? Est-ce que tu as eu des problèmes? Est-ce que tu trouves qu'il met trop de piment dans la cuisine? Parce que souvent, ils nous apprennent à cuisiner à l'africaine. Alors, parfois, on décolle au plafond. Mais en général, ils cuisinent bien. Et on se donne des conseils. Et puis, c'est l'occasion de... Si vous avez envie toutefois de devenir peut-être hébergeur, eh ben venez nous voir à cet apéro et on vous racontera ce que c'est. Et c'est sans engagement de votre part, voyez. Après, si vous repartez en disant non, moi je veux bien donner 3 paires de chaussures et une tenue de foot, bah ça nous va aussi, quoi.
On peut également, si jamais on n'est pas disponible ce jour-là pour ce rendez-vous, cet apéro qui est destiné donc aux échanges, aux rencontres, on peut vous contacter en dehors de ce temps-là.
Oui, bien sûr. Alors on a un mail. Hébergeur solidaire, attention au pluriel, donc hébergeur avec un S solidaire 53 tout accroché @gmail.fr. Et on a un numéro de téléphone, le 07 53 20 51 06. 07 53 20 51 06.
Peut-être un dernier mot des gens qui hésiteraient à se lancer dans l'associatif, dans les solidarités en général. Isabelle, vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette implication, cet engagement? On parle d'engagement, hein, toujours.
Ben, moi, ça m'a apporté plein de choses. Je crois que ça a apporté beaucoup aussi à mes enfants, parce que quand j'ai commencé, j'avais encore 2 grandes filles qui étaient à la maison. Et je pense qu'elles ont été un peu surprises parce que je les ai mises un peu devant le fait accompli et pof, elles ont vu débarquer comme ça 1 ou 2 jeunes. Alors déjà ça, c'est incroyablement intéressant parce qu'ils discutent. Par exemple, l'endroit où il y a le plus d'échanges, c'est dans la cuisine, hein, quand il est question de nourriture. Bon, on essaie de leur faire goûter les spécialités françaises, mais ça vient que lentement. En revanche, nous, maintenant, on est à fond sur la cuisine africaine. On est devenu. Il y a plein de. C'est très enrichissant en fait. C'est. Je sais pas quoi vous dire. Oui, mais c'est vraiment une expérience géniale et quand on a commencé, ben en fait on continue tout naturellement. Et puis c'est vraiment bien de voir. On a des anciens hébergés qui maintenant ont un métier, ont créé une famille. On les revoit. Enfin, vous voyez, c'est. C'est quelque chose de très gratifiant aussi. On cherche pas la reconnaissance, hein. C'est pas ça du tout, mais c'est chouette de voir
ça que... Ça donne du sens.
Voilà. Il y en a aussi qui repartent, hein, dans leur pays, qui finalement se disent non, c'est pas possible. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de choses. Et puis alors, si vous vous intéressez à tout ce qui est aspect juridique aussi, ça peut être très enrichissant. Moi, je suis pas trop là-dedans. On a une grande spécialiste à l'association qui s'appelle Bénédicte. Et qui est aidé, mais ça c'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi de les accompagner pour des soins, parce qu'on parlait des soins médicaux, mais il y a aussi tout ce qui est psychologique. Et ils sont aidés, hein, dans le département, ils ont souvent vécu des traumatismes. Et donc c'est un aspect très intéressant de les suivre, de voir pourquoi ils ont des gros coups de mou, comment est-ce qu'on peut améliorer ça, etc. Voire de les médicaliser parfois.
Voilà. Et donc, on peut rappeler le rendez-vous, donc l'apéro qui est prévu, Isabelle, avant de nous quitter.
Alors, le prochain rendez-vous apéro, ce sera le jeudi 13 février, maison de quartier des Fourches, à 18h30. En fait, si vous vous mettez devant la maison, bah, on est là, quoi, et après, on monte dans une salle.
Merci beaucoup, voilà. Isabelle, d'avoir été
avec nous. Je vous en prie, merci de m'avoir reçue.
Et donc, on va faire une pause musicale avant de retrouver la revue de presse du Haut-Anjou avec toi, Maxime. Qu'est-ce qu'on écoute ?
On va écouter la musique Finesse de Bruno Mars.
Mom!
Et on arrive au moment de la revue de presse du Haut-Anjou, Maxime.
Et oui, Margot, au lieu de sortir la voiture, pourquoi ne pas sortir la barque du garage? On parle des inondations causées par les fortes pluies depuis le samedi 25 janvier dans la région. Le Haut-Anjou nous expose des photos des zones inondées. Certaines routes ont été coupées avec un changer en trottinette qui essaie de traverser, les campings qui ont agrandi leurs piscines, et un cirque qui a remplacé ses chameaux par des poissons. Plus sérieusement, l'eau a monté, atteignant environ 50 cm, raconte une habitante du quai de la Bretagne qui était inquiète pour sa chaudière dans son sous-sol. Heureusement, la météo nous prévoit un temps plus calme cette semaine, sans nouvelles grosses pluies, normalement. Croisons les doigts.
On poursuit cette revue de presse du Haut-Anjou en parlant toujours d'eau, mais salée cette fois, Maxime.
Et oui, le 26 janvier dernier, Maxime Sorel, skipper et participant à deux éditions du Vendée Globe, a rendu visite aux collégiens de Notre-Dame de Meslay du Maine. Le skipper a fait face à des océans de questions, comme pour connaître son parcours, mais aussi son engagement en tant que parrain de l'association Vaincre la mucoviscidose, si je le dis bien. Il a évoqué son ascension du Mont Everest et la sensation de manque respiratoire qu'elle a ressentie pour mieux comprendre les patients atteints de cette maladie. Les jeunes ont demandé ce que mangeait le skipper lors de leur aventure en mer. Eh bah, bien, ce sont des repas lyophilisés. Tiens, ça donne
c'est pas un mot facile, ouais, mais compliqué. Ça donne fort, c'est vrai. c'est vrai.
Afin pour terminer ces revues de presse avec du MMA, je ne parle pas de l'assurance, mais bien du combat. Jérémy, un combattant, se prépare pour le premier événement de MMA en Mayenne qui aura lieu le 8 février. Après avoir vécu 7 ans à Dubaï, il a découvert la discipline qui n'était pas autorisée en France à l'époque. Il a d'abord commencé par le Jiu-Jitsu brésilien qui est une pratique plus douce. Il a été contacté par son beau-frère pour informer l'événement. Depuis, il s'entraîne 5 fois par semaine pour être prêt pour l'événement à l'espace Mayenne de Laval. Ce sera un événement à pas manquer le 8 février. Vous connaissez la différence entre un combat de MMA et moi ?
Non.
Facile. Lui, il met des hypercutes et moi, je mets toujours une excuse pour éviter le sport.
Mal, pas mal.
C'est la fin de cette revue de Haut-Anjou. Pour l'éditeur qui voudrait plus d'informations, et je vous rappelle même que votre hebdomadaire, le Haut-Anjou, est disponible en kiosque chaque vendredi, ainsi qu'en version numérique sur le hautanjou.fr.
Merci beaucoup, Maxime. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte d'un brasseur passionné et d'un lieu où chaque bière raconte une histoire. Jean-François Guillery a fondé la brasserie de l'Arborescence avec une idée en tête, créer des bières artisanales engagées, ancrées dans un savoir-faire et une démarche respectueuse de l'environnement. Pour ce premier épisode de notre série de reportages, plongeons ensemble dans son parcours, de ses débuts à la naissance de sa brasserie. Avant de brasser des bières, il a d'abord brassé des idées, des envies et une certaine vision de l'artisanat. Jean-François Guillery n'a pas toujours été brasseur, mais son parcours l'a mené presque naturellement à fonder la brasserie de l'Arborescence. Une aventure qui commence bien avant l'ouverture de son atelier. Voici le premier épisode d'une série de 3 reportages.
Je m'appelle Jean-François Guillery, je suis natif de Mayenne. Mes origines sont de Saint-Georges-Butavant, mes parents étaient donc agriculteurs ici sur place. J'ai 39 ans et donc je suis agriculteur depuis 2011. J'ai une formation dans l'environnement essentiellement et en lien avec l'agricole. Mais j'ai un bac technologique en agricole et puis un BTS en gestion et protection de la nature. Voilà, j'ai été maraîcher pendant quasiment 10 ans sur une partie de la ferme familiale. Mon frère m'a rejoint en 2014 et il a repris l'activité depuis. Et donc moi, en 2019, j'ai repris l'activité d'élevage de mes parents. Et j'ai en même temps, du coup, construit une petite brasserie sur place. Depuis le début, mon projet, c'est de vivre du métier d'agriculteur, de paysan, j'aime autant ce terme, et de pouvoir vendre moi-même ce que je produis. Donc c'était pour moi important. Le premier projet en maraîchage, c'était la vente de produits agricoles en vente directe par les légumes. Et aujourd'hui, du coup, c'est la transformation d'un produit brut, parce que la bière est fabriquée avec de l'orge principalement. C'est la transformation d'un produit brut en un produit fini, que je vends aussi maintenant donc, directement.
Combien de temps ça met entre ce moment où tu décides de créer ta propre brasserie et où concrètement elle se met en place, où concrètement ce projet prend vie ?
Il m'a fallu un an et demi pour construire la brasserie. Tout d'abord me former. J'ai fait une formation de 3 semaines, une formation courte, à l'Enil Bio dans le Jura. Et puis après, j'ai brassé sur des petits volumes pendant un an et demi dans ma cuisine, en faisant mes essais, en testant différentes levures, différents malts. C'est là où j'ai commencé vraiment à construire mes recettes qui sont aujourd'hui celles que les gens dégustent.
Là, c'est de la bonne fabrication. Ça aussi, donc, c'est des anciens tanks à lait, les 2 cuves ici.
J'ai eu la chance d'être bien accueilli par les brasseurs, le brasseur artisanaux en Mayenne, notamment la brasserie Loudon à Méral, la BAM à Montflour, la Copo Argentrée. Ils m'avaient accueilli, ils avaient répondu à mes questions. Donc ça m'avait permis de savoir un peu vers où j'allais. Et puis après, j'ai toujours eu la chance d'être bien entouré dans mes projets, d'avoir des gens qui pouvaient répondre à mes questions, notamment les brasseries que j'ai rencontrées en Jura, la brasserie La Rustine, qui a toujours été là. Et voilà, c'est une grande aventure, c'est une entreprise. Quand on débarque, on ne connaît rien, c'est sûr que c'est un vrai challenge. Au démarrage, il y a vraiment il y a beaucoup d'interrogations. C'est un milieu assez mystérieux sur les techniques. On n'apprend pas dans un livre à brasser la bière, on apprend vraiment en le faisant. Les gens qui m'ont accompagné ne dévoilent non plus pas tout, c'est un milieu un peu secret. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est très démocratisé aujourd'hui. On peut trouver plusieurs ouvrages qui sont très intéressants. Et puis suivre des petites formations amateurs, hein, ça existe. Et d'ailleurs, moi, j'en propose une bientôt, ici, autour de deux brassins de 35 litres. Il y aura 15 personnes à venir apprendre à brasser de la bière, quoi. Paysan brasseur, pour moi, c'est important de le souligner parce qu'en fait, c'est une brasserie qui est vraiment ancrée dans le territoire. Ça veut vraiment dire que les bières sont faites avec l'orge produite sur place, en agriculture biologique. Donc voilà, il y a un ancrage agricole et puis après, voilà, il y a le produit fini, la bière que les gens peuvent déguster, qui est issue vraiment du terroir. Donc c'est tout le sens que ça a, en fait.
Justement, si tu produis ton orge ici, ensuite il est envoyé à Vannes et ensuite il revient. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ?
L'orge ne peut pas être utilisée crue pour être brassée. Il faut qu'elle soit maltée. Et pour ça, en fait, c'est une malterie, donc ça prend bien son nom, près de Vannes, qui s'appelle Irmalt, qui du coup transforme mon orge brut en orge maltée. Donc c'est un principe qui peut paraître simple, mais il faut vraiment une vraie infrastructure pour le faire. Faut faire germer l'orge, et dès lors que le germe est sorti, il faut la sécher le plus vite possible. On part d'un produit brut, donc forcément, si une année elle est très différente, il y aura un impact sur la bière après. Après, on n'a pas des écarts comme par exemple dans le vin. C'est pas un fruit, même si on est sur une graine. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'extraire l'amidon pour après le transformer. Donc l'impact est moins important. Par contre, il y a quand même une notion vraiment de terroir. Je dirais qu'une orge paysanne, une orge faite avec des méthodes d'agriculture biologique, a forcément une qualité différente d'une orge industrielle. C'est évident, quoi.
Pour ce projet de l'arborescence de cette brasserie, le symbole des racines a un sens particulier pour toi ?
Oui, c'est vrai que je le dis assez souvent, j'ai même une bière qui porte son nom. Du coup, le nom ici, c'est la ferme de l'arborescence. Comme symbole, c'est le chêne qui est au pied de la brasserie. C'est un vrai symbole pour moi, l'arbre, parce qu'avant tout, il est... En fait, on ne voit qu'une partie, hein, il a une partie invisible qui est indispensable pour qu'il tienne debout, ses racines. Ça symbolise à la fois la généalogie, l'histoire du lieu, parce que mes arrière-grands-parents étaient déjà ici, et puis l'ancrage au milieu agricole, qui est une force, je pense, vraiment, même si ce n'est pas un métier facile. Puis après, voilà, à moi d'explorer le reste, qui sont le tronc, les branches, qui symbolise plus l'ouverture sur, sur l'extérieur, la vente directe, et l'aspect social qu'il y a ici avec le bar et les événements.
L'arborescence est un équilibre entre nature, artisanat et engagement. Chaque bière raconte une histoire, chaque bière est le reflet des valeurs qui animent Jean-François Guillery. Et justement, on vous en parle demain dans le prochain épisode. Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Dans quelques instants, on retrouve Mathieu pour son journal des sports. Mais avant ça, on fait une dernière pause musicale. Maxime, dis-moi, qu'est-ce qu'on écoute ?
On écoute maintenant Toute la France de Zaoï.
Dans un rêve, c'est tout déjà. Toute la France est folle de moi. Dans un rêve, c'est tout déjà. Toute la... Pardonne-moi, j'ai pu être vulgaire, un peu terre à terre. De moi, tu aimais ça. J'ai joué le gangster pour te plaire. Si loin de toi, je m'ennuie déjà. Je ferai tout pour qu'on se serre. Regarde-moi, les yeux dans les yeux. Suis-je assez classe pour un coup de cœur? Je suis si bien si la foule danse. Le son des basses, pas seule romance. Besoin de flash, besoin de wow. Besoin de strass et de lumière. Dans un récit tout déjà. Toute la France est folle de moi. Je les murmure, je ne suis rien sans toi. Elle s'endort câline dans mes bras. Dans un délire qui ne se refuse pas. Toute la France est dans mes draps. Je lui susurre quelques sons à moi. Elle rougit, regarde caméra. Retrouve-moi, la tête en vrac. Mon cœur revenu de l'enfer. Raconte-moi tous tes plaisirs. Comment t'aimer, te faire rugir. J'invente pour toi toutes les tendances. L'amour du groove de cette douce France. Y'a que dans tes bras que je me sens roi. Que je me sens moi. Que je me sens. Je la vis mal toute cette distance. Je tourne en rond en ton absence. J'ai besoin de toi, besoin de ça. Besoin d'un succès populaire. Dans un récit tout déjà. Toute la France est folle de moi. Je lui murmure, je ne suis rien sans toi. Elle s'endort câline dans mes bras. Dans un délire qui ne se refuse pas. La France est dans mes draps. Je lui susurre quelques sons à moi. Elle rougit, regarde caméra.
Passe-t-il du côté des sports en Mayenne ? Eh bien, pour répondre à cette question, retrouvons Mathieu pour son traditionnel journal des sports.
Bonjour Margot, bonjour à tous.
On commence ce journal par le stade Lavallois qui cale à Pau dans une rencontre très fermée.
Effectivement, pas de victoire, mais une série d'invincibilité qui perdure pour le stade Lavallois. Avec 10 matchs sans victoire, 10 matchs sans défaite, pardon. Vendredi dernier, Laval était opposé à Pau. À l'extérieur, Laval a concédé le match nul un partout, alors qu'il menait au score après le but de Thibaut Vargas. Un avantage perdu dans le temps additionnel après une faute de main de Williams Kokolo. Une faute de deux mains sanctionnée sans pénalty par l'attaquant de Pau, Khalid Boutaïb. Finalement, ce sont deux points qui sont perdus bêtement. Au-delà du score, le point positif pour Laval ces derniers temps, c'est aussi l'éclosion de certains joueurs. Je pense en particulier à Jordan Tell qui a marqué son premier but avec les Tangos, face à 3, permettant d'ailleurs au club de l'emporter 1-0. Et le second, Kevin Zoe, auteur lui aussi de son premier but, c'était face à Clermont 1 partout. Désormais, l'équipe est dans le wagon de tête avec une 6e place au classement. Impensable avant le début de la saison. En dehors du terrain, certaines infos sont aussi à souligner. La première avec la signature de Théo Pelnard, joueur expérimenté et surtout champion de France de Ligue 2 avec Auxerre. Sa venue vient renforcer une défense touchée par les blessures de Williams Bionda et de Peter Wani. Et enfin, la signature d'Emeric Fouron-Tourner. Âgé de 20 ans, cet attaquant signe son premier contrat professionnel avec les Tangos. Lui, d'ailleurs, pour information, qui avait marqué 10 buts avec l'équipe réserve du Stade Lavallois et évolue en N3. Et enfin, prochain match pour Laval, la réception d'Annecy vendredi prochain à 20h à Le Basser.
Place au futsal avec l'étoile lavalloise qui perd son siège de leader de D1 au détriment du Sporting Paris.
C'est un résultat qui aura peut-être son importance en fin de saison si Laval venait à ne pas remporter le championnat. Samedi 25 janvier, les Stélites ont été tenus en échec de partout face au Gol FC. À domicile, la première période a été très intense avec 4 buts marqués, dans un match notamment à l'avantage de Laval, tout comme la seconde période d'ailleurs. Malgré cette domination, Laval s'est cassé les dents sur une solide défense lyonnaise. Un point du match nul passe en conséquence car Laval perd sa place de leader au détriment du Sporting Paris. Et hasard du calendrier ou pas, le prochain match d'ailleurs de Laval se jouera justement face au nouveau leader et aura lieu, notez-le bien, le 15 février. Au match aller, Laval avait concédé le nul de partout. En attendant, c'est la trêve internationale qui s'avance avec 4 Lavallois concernés. Je vais vous les donner. Il s'agit de Abdessamad Mohamed, Nelson Lutin, Owasini Guirio et Louis Marquet, tous convoqués chez les Bleus pour les éliminatoires de l'équipe de France pour l'Euro 2026 de futsal.
Du volleyball maintenant avec la SPTT qui reste deuxième derrière Boulogne.
Ces dernières semaines, la SPTT ne cherche qu'une chose, rattraper Boulogne, leader de N2. Pour ce faire, Laval ne doit plus perdre et pour ne surtout pas accentuer son retard et pour ça, doit enchaîner les victoires. Tombeur de Sartrouville le 26 janvier dernier avec une victoire convaincante 3-7-1, la SPTT affrontait ce samedi Rézé à domicile, l'équipe nantaise. Et Laval s'est imposé face à Nantes non sans mal en perdant le premier set 22-25. Mais poussé par son public, Laval égalise lors du deuxième set, gagné 25-21. Entreprenant et tranchant, Laval l'emporte finalement au troisième set 25-17. Puis, lors du quatrième set, 25-18, grâce notamment à un ace gagnant de Nicolas Bonilla, qui d'ailleurs, pour information, quitte le club pour des raisons familiales.
Un point complet sur l'athlétisme en Mayenne maintenant avec les championnats régionaux.
Le week-end du 25 et du 26 janvier restera comme un week-end de succès pour l'athlétisme mayennais. On commence ces championnats par le cross organisé à Saint-Laurent-sur-Sèvre le 26 janvier, avec un nombre élevé de 232 athlètes mayennais venus défier les autres départements de la région. Parmi les 15 podiums, on retiendra en particulier la performance de exceptionnel d'Adrien Le Richaume, 22 ans et étudiant, vainqueur du cross long dans la catégorie U23 devant Tobias Flon. L'autre épreuve d'athlétisme s'est déroulée, elle, le 25 janvier avec les championnats régionaux de lancer long. Organisés à Laval, ces championnats ont cette fois réuni 20 athlètes mayennais avec 16 podiums récoltés, dont 2 titres régionaux. Dans cette épreuve, on retiendra aussi deux exploits. La première avec Anaïs Blondeau, l'avoue, qui elle s'est imposée chez les féminines dans la catégorie U18 avec un lancer de 31,90 m au lancer. Et chez les hommes dans la catégorie U23 avec Clément Taffin, auteur d'un exploit retentissant au lancer du marteau d'une distance de 38,51 m. Des exploits exceptionnels d'autant plus qu'ils ont été réalisés dans des conditions météorologiques plus qu'au compliqué.
On termine ce journal par l'organisation d'une soirée d'arts martiaux organisée le 8 février à l'espace Mayenne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui va se passer?
Je vais vous en apporter un petit peu plus parce que Maxime vous en avait dit un petit peu plus auparavant. Déjà, c'est une soirée mixte d'arts martiaux qui aura lieu là pour la première fois à l'espace Mayenne le 8 février prochain. Elle est organisée par l'Arena Elite Championship, d'ailleurs une organisation de MMA créée à Rennes. D'ailleurs, l'objectif de cette dernière est de mettre en avant des combattants amateurs locaux avec des professionnels. Cette soirée du 8 février réunira aussi 4 professionnels que sont Alvi Dazouyev, Kazmat Abaef et Movsar Ibrahimov, ainsi que le rappeur français Abou Kamara. Sur l'ensemble de la soirée, ce sont 12 combats qui seront programmés, dont les premiers débuteront à 18h30. Sur ce grand événement à suivre, je vous laisse et vous dis à très bientôt pour un nouveau journal des sports sur l'actualité sportive en Mayenne.
Merci beaucoup Mathieu et à très bientôt.
À très bientôt.
L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Isabelle Maignan d'avoir été avec nous. Merci à toi Mathieu, et puis merci à toi Maxime. Alors c'est fini pour nous, mais ça ne s'arrête jamais sur nos ondes.
Oui, la soirée commence avec Sélénoïde à 19h. L'émission nous propose chaque semaine un voyage sonore à base de musique planante, cinématographique et ethnique.
Et ensuite à 20h.
La soirée continue avec la discothèque avec un thème spécial, Jean-Jacques Coleman, fait par Véro et les loups.
Merci beaucoup Maxime. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Nous serons avec l'association Les Grands Nez Rouges. D'ici là, commencez cette nouvelle semaine comme une page encore blanche. Rien n'est écrit, tout est possible. S'il vous plaît, faites-le bien.
Bon ben Mimi, on dirait que c'est fini. Oh ben, c'était bien, hein.